Et c'est Ezequiel Fernandez aux commandes ce soir. Bonsoir Ezequiel.
Bonsoir Camille, et bonsoir à tous. La Russie a-t-elle mis au point un vaccin efficace contre la Covid? Vladimir Poutine l'affirme, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, demande des garanties. En France, le gouvernement appelle à une nouvelle mobilisation contre la pandémie. Jean Castex, cet après-midi à Montpellier, annonce notamment le prolongement jusqu'en octobre de l'interdiction de tout rassemblement au-dessus de 5000 personnes. Nous verrons ce qu'en pensent les organisateurs de spectacles. La France et le Royaume-Uni travaillent en ce moment un nouveau plan pour couper la route de la migration par la Manche, alors que les candidats à la traversée en bateau sont de plus en plus nombreux. Au reportage à Calais, signé Agera Mohamed. Au Liban, une semaine après l'explosion catastrophique de Beyrouth, en pleine déconfiture politique, les associations et les ONG se battent sur le terrain quotidiennement pour venir en aide aux 300 000 sinistrés. Et puis, 5 députés italiens pris littéralement la main dans le sac, ils ont demandé et perçu une aide spéciale Covid réservée aux travailleurs indépendants en difficulté. Nouveau scandale qui révulse l'Italie, nous dira dans ce journal Bruce de Galzin. Le gouvernement s'inquiète de l'augmentation du nombre de contaminations à la Covid-19 en France. Jean Castex fait sonner de nouveau l'alerte générale. Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler. Dixit, donc le Premier ministre, cet après-midi au CHU de Montpellier. Il faut avant tout, explique Jean Castex, éviter un retour en arrière, c'est-à-dire un reconfinement important. Il demande aux préfets, aux élus locaux, d'étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics. Il faut avant tout, explique-t-il, éviter donc ce retour en arrière. Il annonce par ailleurs que l'interdiction des événements rassemblant plus de 5000 personnes, cette interdiction est prolongée de nouveau jusqu'au 30 octobre. Malikia Seguino est la directrice générale de Prodis, c'est le syndicat national du spectacle musical et de la variété.
On a noté donc une interdiction des rassemblements de plus de 5000 jusqu'au 30 octobre. On a noté également que le Premier ministre indiquait la voie possible d'une dérogation par les préfets. On sait tous aujourd'hui sur les territoires que ces dérogations sont extrêmement rares, puisque d'ores et déjà elles sont possibles pour les rassemblements de moins de 5000. Et même si les événements respectent des conditions sanitaires strictes, elles sont rarement accordées. Donc on en déduit une chose très simple, c'est que le spectacle vivant pour nous demeure confiné, n'a absolument pas repris son activité. Et on est effectivement assez étonné parce qu'au même moment, on apprend l'existence d'un certain nombre de rassemblements non autorisés qui, eux, ont pourtant bien lieu et dans des conditions non contrôlées.
Le 4 août dernier, Jean Castex annonçait que les rassemblements culturels de plus de 5000 personnes pourraient être autorisés à compter du 15 août par les préfets en respectant justement certaines conditions sanitaires comme vous l'avez évoqué. On avait l'impression à ce moment-là d'un assouplissement et là on a l'impression à nouveau d'un durcissement. C'est facile pour vous de vous y retrouver? Comment est-ce que vous analysez cela?
Absolument pas. C'est absolument pas facile. Moi je représente des entreprises qui effectivement sont sans activité depuis le 1er mars. Là, nous attendions effectivement la rentrée pour pouvoir lancer les tournées des artistes. Or là, cette annonce du jour va retarder encore plus la programmation de ces tournées. Donc c'est extrêmement difficile pour les entreprises aujourd'hui d'y voir clair.
Malika Seguino, la directrice générale de Prodis, syndicat national du spectacle musical, interrogée pour France Culture par Ilan Malka. Plus de 2000 personnes ont été interpellées hier soir à Minsk, la capitale biélorusse, lors d'une manifestation contre la réélection, bien sûr, du président Alexandre Loukachenko. Ce mardi, Svetlana Tikhanovskaya, la candidate de l'opposition, a trouvé refuge en Lituanie, le pays voisin de la Biélorussie. Il y a depuis longtemps une tradition d'accueil de l'opposition biélorusse et de soutien à la société civile. Nous retrouvons à Vilnius, capitale lituanienne, Marie Vituro.
Le message du ministre lituanien des Affaires étrangères était laconique. Svetlana Tikhanovskaya est en sécurité, elle est en Lituanie. Mais il a rassuré. Hier, après avoir déposé plainte au comité électoral, le silence de la candidate a inquiété. Elle a été détenue pendant près de 7 heures, a indiqué le chef de la diplomatie lituanienne. Elle a subi des pressions et n'avait pas d'autre choix que de quitter le pays. Svetlana Tikhanovskaya était déjà en possession d'un visa national lituanien, ce qui a motivé sa décision de venir ici. Depuis de longues années, la Lituanie a été et est toujours le refuge de l'opposition biélorusse. En 2004, une université biélorusse s'est exilée à Vilnius. Une centaine d'associations et d'organisations s'y sont installées et travaillent avec l'opposition. Les autorités lituaniennes sont en contact avec la candidate et pour l'instant, son lieu de résidence est tenu secret.
Marielle Vitureau à Vilnius. Emmanuel Macron a présidé, comme prévu, par visioconférence ce matin un conseil de défense consacré au Niger, deux jours après l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à 8 personnes, dont 6 humanitaires français. Les familles des victimes sont d'ailleurs reçues au Quai d'Orsay en ce moment, alors que les recherches se poursuivent bien sûr sur le terrain pour tenter de retrouver la trace des auteurs de l'attaque. Le président de la République a insisté sur le renforcement nécessaire de mesures de sécurité pour ceux qui travaillent sur les terrains dangereux, mais cela ne suffira peut-être pas à rassurer les ONG qui se retrouvent trop souvent en première ligne. Valérie Crova.
Une attaque manifestement terroriste. C'est ainsi que le chef de l'État a qualifié le drame qui a coûté la vie aux 6 jeunes Français, ainsi qu'à leur chauffeur et à leur guide nigérien. Ces jeunes témoignaient d'un engagement remarquable pour les populations, écrit-il dans un tweet. La France va également renforcer les mesures de sécurité pour ses ressortissants dans la région du Sahel, a annoncé Emmanuel Macron sans donner plus de détails. Éprouvée par la perte de ses jeunes collègues, l'ONG Acted a quant à elle décidé de suspendre ses activités. Le directeur général délégué d'Acted, Frédéric de Saint-Cernin, ce matin sur RFI.
Nous suspendons nos activités, mais il n'est pas question de quitter le pays, il n'est pas question de quitter la région. Nous sommes là pour aider les bénéficiaires.
Présente au Niger depuis 2010, Acted compte 200 salariés sur place. Planifié ou d'opportunité, l'attaque de dimanche n'a toujours pas été revendiquée. Pour Frédéric de Saint-Cernin, il s'agit ni plus ni moins d'une exécution.
Valérie Crova, à propos donc de la situation au Niger et des garanties promises par le gouvernement concernant le travail des ONG humanitaires sur le terrain des opérations, notamment dans le Sahel. Une grande période d'incertitude s'est ouverte, vous le savez, au Liban, alors que nous en sommes à une semaine tout juste après l'explosion qui a secoué la capitale Beyrouth. Un traumatisme national qui aura fait voler en éclats le statu quo politique. La démission hier du gouvernement Hassan Diab en est la première étape. L'apocalypse du 4 août a constitué la manifestation la plus dure et la plus sévère du dysfonctionnement des institutions et de l'appareil étatique, résume aujourd'hui le quotidien francophone L'Orient le Jour dans son éditorial. Cataclysme qui a tué 160 personnes, blessé 6000 autres, 300 000 Béroutins se retrouvent aujourd'hui sinistrés dans des quartiers en ruine. Si les autorités libanaises ne donnent pas vraiment une image de grande efficacité dans l'organisation des secours et l'assistance aux victimes, c'est du côté des associations et des ONG qu'il faut chercher une solidarité active, comme a pu le constater sur place Nathanaël Charbonnier.
Nous sommes dans le centre de Beyrouth. Michel Aboud avance avec plusieurs bénévoles de l'association Caritas.
On a commencé avec les gens qui ont perdu leur maison, qui n'ont pas de quoi manger. On a fait des tentes.
Et Michel Aboud n'a pas le temps de terminer sa phrase, qu'il est interrompu par un vieil homme en débardeur et pantalon abîmé. L'homme fatigué raconte qu'il cherche de l'argent pour s'acheter des médicaments car il a tout perdu avec l'explosion et que sa maison a été volée. Il recevra un billet de quelques livres libanaises.
Peter Mouakadem, tu es un citoyen libanais.
Et Peter n'expliquait qu'en tant que Libanais, il ne pouvait pas rester les bras croisés. C'est ainsi que depuis son camp de base vers le port, il dirige les opérations. Sa mission, vérifier la salubrité des immeubles.
Voilà, on a une équipe d'ingénieurs structurels, leur job est d'aller vérifier rue par rue et puis d'évaluer les dégâts.
Mobilisation des ONG et confiance des associations, nous explique Patricia Coder, porte-parole de CARE au Liban.
Il y a des ONG locales libanaises très fiables qui sont sur le terrain, qui connaissent les gens. Donc voilà, il faut donner au peuple libanais. C'est comme ça qu'on va lui donner un peu d'espoir.
Enfin, mobilisation toujours de la sécurité civile qui, elle, continue aussi de rechercher les derniers disparus.
Nathanaël Charbonnier, notre correspondant à Beyrouth. Concernant l'enquête sur l'explosion elle-même dans le port de Beyrouth, tout ce qu'on le sait pour l'instant, c'est qu'une 20aine de personnes ont été interpellées. Pas grand-chose pour l'instant à filtrer des résultats de cette enquête, qu'elle soit policière ou judiciaire à Beyrouth. Cette question que je posais en titre, la Russie a-t-elle mis au point le premier vaccin efficace contre le coronavirus? Cette question se pose après que Vladimir Poutine a créé la surprise ce matin en déclarant que pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré, qu'il donne une immunité durable et que l'une de ses filles se l'était faite inoculer. Une annonce accueillie avec prudence, sinon circonspection un peu partout dans le monde. L'OMS, par exemple, assure qu'elle doit avant tout examiner par des procédés rigoureux l'ensemble des données recueillies lors d'essais cliniques. On attendait cette réaction de l'OMS. Elle vient tout juste de nous parvenir par la voix de son porte-parole, Tariq Jazarevic.
We apply all public health measures that we know are working. Nous mettons en application toutes les nouveautés dès que nous savons que cela fonctionne. C'est clair que nous devons accélérer les recherches pour avoir un traitement sûr et efficace avec un vaccin qui nous aideront à ralentir le risque de transmission du virus. Mais accélérer le progrès ne veut pas dire qu'il faut compromettre la sécurité. Les préqualifications d'un vaccin doivent passer par des procédés rigoureux. Nous sommes en étroit contact avec les Russes et les discussions se poursuivent. Nous suivons le progrès et nous regardons de près ce qui se passe sur les protocoles pour les vaccins en expérimentation et on met ça à jour sur notre site internet.
Voilà le porte-parole de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Tariq Jazarevitch. Et donc la circonspection du monde médical international face à l'annonce faite par Vladimir Poutine ce matin. Paris et Londres travaillent en ce moment à un nouveau plan opérationnel pour tenter de fermer la route migratoire par la Manche. C'est ce qu'indique en tout cas le secrétaire d'État britannique à l'immigration à l'issue d'une rencontre aujourd'hui avec ses homologues français, c'était à Paris. Les traversées se multiplient, il faut le dire, ces dernières semaines, des traversées qui se font désormais à bateau ou en bateau plutôt qu'en camion, souvent dans des embarcations de fortune, ce qui veut dire que d'une certaine manière, le scénario méditerranéen est en train de s'importer dans les eaux de la Manche. Ce voyage dans des conditions plus que précaires, c'est un risque que sont prêts à prendre les migrants, ils sont très nombreux, encore bloqués à Calais. Agira Mohamed a rencontré l'un d'entre eux.
Shafi Koula n'en est pas à sa première tentative de traversée. Les côtes anglaises l'attirent comme un aimant. Elles sont là à 40 km à peine, l'Afghan le sait bien.
J'ai essayé de nombreuses fois, 18 ou 19 fois, en me cachant dans un camion. Mais avant de prendre le ferry, ils m'ont repéré au scanner. Si je ne trouve pas d'autres moyens, je dois essayer en bateau.
Pourtant, traverser en bateau, c'est risquer sa vie.
Je sais, c'est très dangereux, mais si la France me donnait un titre de séjour, je ne prendrais pas ce risque. La France ne me donne aucune chance. Ça fait 17 mois que j'attends. Combien de temps je vais encore attendre ici?
Sur les 1200 migrants présents encore à Calais, beaucoup misent désormais sur les traversées maritimes, confirme François Guénoc, vice-président de l'association L'Auberge des Migrants.
Les parkings où les migrants essayaient de trouver des camions qui, avec un peu de chance, vont en Angleterre, ont été fermés dans un rayon de 150 km. Les contrôles électroniques sur le port se sont perfectionnés. Donc c'est aussi probablement parce que c'est plus difficile de passer en camion que ces techniques-là se sont développés.
Et les passeurs l'ont bien compris, le business est très lucratif, d'ailleurs les filières se multiplient.
Honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait dissuader les gens de traverser la Manche.
Rien, c'est vrai, n'empêchera Shafi Koula de retenter sa chance.
Bien sûr, aujourd'hui, demain, après-demain, n'importe quel jour, n'importe quand, parce que je dois y aller.
Le reportage d'Agira Mohamed à Calais, la rencontre avec l'un de ses candidats à la migration vers le Royaume-Uni. 5 députés italiens ont été pris la main dans le pot de confiture, comme l'on dit. Ils n'ont pas hésité à réclamer le bonus mensuel de 600 euros proposé dès le mois de mars par le gouvernement pour venir en aide, en principe, aux travailleurs indépendants qui se retrouvent en difficulté à cause de la crise du coronavirus. Cette affaire, en pleine crise sanitaire et économique, fait bien sûr scandale en Italie. Bruce de Galzin à Rome.
600 euros en mars et en avril, puis 1000 en mai. Ce bonus Covid est censé venir en aide aux travailleurs indépendants qui ne touchent pas les minima sociaux. Mais 5 députés et 2000 élus locaux l'ont réclamé, car aucun plafond de revenus n'est exigé. Le président 5 étoiles de la Chambre des députés, Roberto Fico, demande aux voleurs de bonus, comme ils sont surnommés, de se dénoncer.
Les députés devront présenter leurs excuses publiquement en disant qu'ils ont fait une erreur et ils restitueront cet argent.
Tous les partis de la majorité et de l'opposition dénoncent un scandale indécent, une vraie honte. À droite, certains en profitent pour renvoyer la faute sur le gouvernement qui ne contrôle pas l'argent qu'il distribue n'importe comment. À l'extrême droite, en revanche, on fait profil bas, car 3 députés de la Ligue seraient concernés. Le léguiste Massimo Carvalha est plutôt mal à l'aise sur le plateau de la chaîne La 7.
Les noms sortiront, mais surtout, il n'y a pas grand-chose à dire. Un parlementaire a un revenu d'environ 100 000 euros par an. Si en plus il est travailleur indépendant, il a un autre revenu. Demander le bonus, ça n'a pas de sens. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Matteo Salvini a promis de suspendre immédiatement les membres de la Ligue qui ont réclamé le bonus. Le vice-président de la région Veneto vient de se dénoncer.
La correspondance à Rome, signée Bruce de Galzin. La disparition à l'âge de 90 ans de Jean Gandois, ex-président du CNPF, l'organisation patronale ancêtre du MEDEF. En 1997, il avait démissionné de son poste pour protester contre la réforme sur la durée du temps de travail à 35 heures, loi portée à l'époque par Martine Aubry dans le gouvernement de Lionel Jospin. Jean Gandois a dirigé, il faut le dire, au long de sa très longue carrière, des géants industriels français comme Rhône-Poulenc ou encore Pechiney. Un dernier mot concernant le bilan à Beyrouth qui vient de s'alourdir. Le ministère de l'Intérieur libanais fait état désormais de 171 morts, résultat de la catastrophe survenue la semaine dernière. Il y a tout juste une semaine, l'explosion dans le port de Beyrouth. Nouveau bilan, donc 171 morts. Le temps, il se met à l'orage, dès ce soir d'ailleurs sur la capitale, à Paris. Demain, sur la façade ouest de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie, le temps restera sec dans le reste du pays. Températures, elles baisseront un petit peu par rapport à aujourd'hui, ça fera pas de mal, entre 30 et 36 degrés, sauf en Bretagne et le long de la côte atlantique où il fera moins chaud. Fin de cette édition, préparée avec François-Charles Domergue. Très bonne soirée à tous.